ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Écoutez, Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et tutti quanti, c'est tutti quanti. Pour écouter des adagios, des allegros, des moderato et tutti quanti, c'est tutti quanti, votre magazine consacré à la musique classique de Radio MDM. Un magazine préparé par Alain Bont avec à la technique le fidèle Arnaud. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à un musicien extrêmement important, qui est Franz Brüggen. Franz Brüggen s'est d'abord fait connaître avec un instrument qui était complètement oublié au XXe siècle, la flûte à bec. Oui, oui, la flûte à bec, celle que vous aviez au collège, celle avec laquelle vous vous amusiez à frapper sur la tête de votre voisin, tout ça. La flûte à bec, toute bête. Alors, celle de Franz Brüggen n'était peut-être pas forcément en plastique, elle était certainement un peu plus juste que celle que vous aviez, mais toujours est-il que Brüggen a exploré tout un répertoire extrêmement important, parce que à l'époque baroque, la flûte à bec est un instrument très très utilisé. On va en avoir un exemple tout de suite avec une pièce de Telemann. C'est un trio en si bémol majeur dont on va écouter les quatre mouvements. Le premier mouvement est un dolce. On est vraiment dans la tradition d'alternance de mouvements lents et de mouvements rapides. Donc le premier mouvement est un dolce, le deuxième mouvement un vivace, la troisième mouvement sera sur le rythme un peu dansant de la sicilienne. Et ça se terminera par un quatrième mouvement, vivace. On va évidemment entendre à la flûte à bec Franz Brüggen. Il est ici très très bien accompagné, puisque en Hollande, dans ces années 60-70, il y avait tout un vivier de musiciens tous plus extraordinaires les uns que les autres, qui redécouvraient ce répertoire baroque. Au clavecin, ce sera Gustav Leonhardt et au violoncelle, Anner Bilsma.
Thank you.
Franz Bruggen lui-même, alors je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est né en 1934, donc aux Pays-Bas. Il se fait repérer très très vite, hein. Dès la fin des années 50, il est nommé professeur au Conservatoire Royal de La Haye. Il joue avec vraiment tous les grands musiciens, tous ceux qui ont redécouvert ce répertoire baroque et qui l'ont exploré sur des instruments d'époque. Il ne s'est pas contenté d'être flûtiste, et loin de là, et vous allez voir dans cette émission, finalement, on va écouter beaucoup plus de musique orchestrale que de musique pour flûte, puisque en 1981, il va fonder son propre orchestre, qu'il va appeler l'Orchestre du XVIIIe siècle. Il avait déjà fondé auparavant un autre ensemble qu'il avait appelé, en toute modestie, le Bruggen Consort. Mais c'est vraiment cet orchestre du XVIIIe siècle qui va être son ensemble de prédilection, même s'il y a un autre orchestre d'ailleurs avec lequel il va beaucoup travailler, qui s'appelle l'Orchestre de l'Âge des Lumières. On va écouter tout de suite un exemple de ses productions orchestrales avec, puisqu'on a écouté du Telemann tout à l'heure, le grand concurrent de Telemann, Jean-Sébastien Bach. Vous savez qu'à l'époque, Telemann était plus connu et plus réputé que Jean-Sébastien Bach, puisque quand Bach a été recruté à Leipzig, celui qu'il voulait, c'était Telemann. Et donc, dans le document officiel de recrutement de Jean-Sébastien Bach, qui était marqué la chose suivante, qui est quand même assez vexante et assez étonnante: à défaut d'avoir obtenu le meilleur, nous embauchons Jean-Sébastien Bach. Bon, l'histoire jugera. Je vous propose d'écouter un extrait de la Messe en Si de Jean-Sébastien Bach, probablement l'extrait le plus bouleversant, le Crucifixus. C'est donc bien sûr Franz Bruggen qui dirige l'orchestre du XVIIIe siècle. un anniversaire. De quel anniversaire allons-nous célébrer? Eh bien, le 15 janvier 1775, mourait un compositeur, pas le plus connu des compositeurs, mais un compositeur important, Giovanni Battista Sammartini. Il était né vers 1700, on n'est pas très très sûr, mais vers 1700 à Milan, et il a fait à peu près toute sa carrière dans cette ville de Milan. 1700-1775, on est donc sur cette frontière entre la fin du baroque et la période classique, et Sammartini va vraiment incarner ce passage d'une époque à l'autre. Petit détail historique, Sammartini a un nom complètement italien, puis je vous le disais, il est né à Milan. Il n'empêche que son père était un musicien français qui s'était installé à Milan, c'était un oboïste qui s'appelait Alexis Saint-Martin. Et on voit bien que bah, pour pouvoir faire sa carrière en Italie, il a italianisé son nom en Sammartini. Giovanni Battista va être un compositeur extrêmement prolifique, beaucoup de musique d'église, des concertos, des sonates, des trios. Mais c'est surtout dans la musique symphonique qu'il est le plus important, parce qu'on sent ce passage, c'est là où on sent vraiment ce passage entre cette période baroque, les fameuses suites pour orchestre, par exemple de celle de Bach, qui vont aller quelque part vers la symphonie. Je propose d'écouter l'ouverture en sol majeur. Le mot ouverture est un petit peu un mot ambigu ici, parce que c'est une ouverture qui est en réalité en trois mouvements, un petit peu comme ses premières symphonies classiques. On va écouter donc le troisième mouvement de cette ouverture, qui est un allegro, et qui sera interprété par l'ensemble Europa Galanta, que dirige Fabio Biondi. Thank you. Des pièces pour orchestre, bien sûr, mais aussi de la musique de chambre. On va rester encore un petit peu avec Sammartini, avec une sonate pour violoncelle qui va nous permettre de réentendre celui qui a été très longtemps un compagnon de route de Bruggen, le violoncelliste Hanner Bylsma. On va revenir maintenant à la carrière de Franz Bruggen. Je vous le disais, Sammartini a créé les bases de la symphonie. On pense même d'ailleurs que certaines symphonies attribuées à Haydn, dont dans toutes les histoires de la musique, on vous dit qu'il est le père de la symphonie, donc on pense que certaines de ces symphonies de Haydn, les symphonies de jeunesse, sont en réalité des pièces de Sammartini que Haydn avait recopiées tout simplement pour... pas pour les voler, mais pour s'approprier le style, pour essayer de bien le comprendre. Toujours est-il qu'à l'époque classique, oui, ça y est, la symphonie est en place. Peut-être qu'Haydn est le père de la symphonie, mais peut-être que le roi de la symphonie classique sera Mozart. Et je propose d'écouter la 40e symphonie de Mozart, l'un de ses tubes, en tout cas dans son premier mouvement, et d'entendre la version qu'en donne Franz Bruggen avec son orchestre du XVIIIe siècle. Et vous allez entendre que c'est une version beaucoup plus... alors, l'œuvre a un caractère un peu tragique, mais c'est une version beaucoup plus, malgré tout, beaucoup plus légère, beaucoup plus vivante que les orchestres, entre guillemets, classiques, les directions type Karajan ou Carl Böhm pouvaient faire jusqu'à présent. Voilà, il y a une sorte de vivacité rythmique, de nervosité qui reste extrêmement présente et qui donne beaucoup de charme à cette symphonie. Voici donc le premier mouvement de la 40e symphonie de Mozart, dirigée par Franz Bruggen. Thank you. rester avec Mozart avec une pièce tout à fait incroyable, la Grande Partita. On est là dans la tradition des sérénades, autrement dit, c'est des musiques pour ensemble d'instruments à vent, probablement au départ destinées pour des manifestations en plein air, des choses, une musique qui n'avait pas beaucoup d'importance en réalité, une musique plus d'accompagnement ou de cérémonie. Il se trouve que dans cette Grande Partita, Mozart va faire éclater complètement le cadre. C'est une pièce qui est d'une immense richesse, donc c'est une pièce assez longue, hein. Elle est en sept mouvements. On va en écouter le troisième, l'Adagio. Donc c'est une pièce uniquement pour instruments à vent. Ce sont les instruments à vent de l'orchestre du XVIIIe siècle, et c'est bien sûr Franz Brüggen qui dirige.
Thank you.
Alors, est-ce que quand on dirige un orchestre qui s'appelle l'orchestre du XVIIIe siècle, on ne joue que de la musique du XVIIIe siècle? Eh bien, évidemment, non. Non, on peut regarder un petit peu ailleurs, on peut regarder ce qui se passe au 19e siècle, et je voudrais vous faire entendre, peut-être découvrir, un enregistrement tout à fait extraordinaire des symphonies de Mendelssohn, et notamment de la 4e symphonie de Mendelssohn, où là aussi, Franz Brueggen, j'allais dire, dynamite tout, en tout cas il dynamise beaucoup les choses, il choisit dans le 4e mouvement de cette symphonie, qui s'appelle Saltarello, donc un côté très bondissant, très sautillant, il choisit un tempo hallucinant, et les musiciens réagissent au quart de tour. Je vous propose donc d'écouter ce 4e mouvement de la 4e symphonie de Mendelssohn, Franz Brueggen et l'orchestre du XVIIIe siècle.
Thank you.
Alors, est-ce que quand on est un musicien baroque, qu'on dirige un orchestre qui s'appelle l'orchestre du XVIIIe siècle, qui s'aventure parfois dans la musique du XIXe siècle, on s'arrête là ? Eh ben non, évidemment, quand on est un musicien avisé et extraordinaire comme l'est Franz Boggan, on s'intéresse aussi à la musique de son temps, on s'intéresse aussi aux compositeurs qui sont encore vivants, et on travaille avec eux. C'est ce qui s'est passé dans une collaboration donc, entre Boggan et le compositeur italien Luciano Berio, pour une pièce qui s'appelle Gesti, qui est une pièce donc pour flûte à bec seul. C'est vraiment un travail de collaboration. La correspondance entre Boggan et Berio existe et on voit bien qu'ils se font des suggestions l'un l'autre. Berio est parti d'une idée qui était au départ tirée d'une gigue de Telemann. Alors, très honnêtement, il l'a beaucoup retravaillé et on ne la repère pas tout de suite, la gigue de Telemann. Je propose donc d'écouter cette pièce qui date de 1967, Gesti de Luciano Berio, interprétée par Franz Boggan. Thank you.
Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lèvent un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
Une chanson qui pourrait être dans la thématique que nous avons choisie aujourd'hui, la carrière de Franz Brüggen, de ce flûtiste qui était Franz Brüggen. Il faut peut-être repréciser qu'au-delà du musicien extraordinaire qu'il était, c'était un homme tout à fait attachant. C'est-à-dire, c'était un enseignant très, très, très apprécié. On se battait vraiment pour pouvoir être dans sa classe et il avait un contact très fort. Il suivait de très près tous ses élèves. Et les musiciens qui travaillaient avec lui dans son ensemble étaient aussi très, très proches de lui. Et il y a une anecdote qui, à mon avis, en dit beaucoup sur le personnage, qui concernait la façon dont il se faisait payer. Quand on lui demandait, bah, votre cachet à vous, il est de combien? Et il disait, bah, mon cachet, c'est forcément celui du musicien le moins bien payé de l'orchestre. Il disait, moi, j'ai la chance de pouvoir faire autant de concerts que je veux. Voilà, c'est un privilège. Et donc, je ne demande pas, pour moi, des cachets extraordinaires. Il alignait son cachet sur celui du plus jeune musicien ou du musicien le moins bien payé de l'orchestre. Grande modestie, grande humilité de Franz Brüggen. Pour illustrer cette humilité, je propose d'écouter une chanson de Georges Brassens, le petit joueur de flûteau.
Le petit joueur de flûteau menait la musique au château pour la grâce de ses chansons. Le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note. Avec un blason à la clé, mon la se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Et mon pauvre petit clocher me semblerait trop bas perché. Je ne plierai plus les genoux devant le bon Dieu de chez nous. Il faudrait à ma grande âme tous les saints de Notre-Dame. Avec un évêque à la clé, mon la se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Je serai honte de mon sang, des aïeux de qui je descends. On me verrait bouder dessus la branche dont je suis issu. Je voudrais un magnifique arbre généalogique, avec du sang bleu à la clé. Mon la se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Je ne voudrais plus épouser ma promise, ma fiancée. Je ne donnerai pas mon nom à une quelconque ninon. Il me faudrait pour compagne la fille d'un grand d'Espagne, avec une princesse à la clé. Mon la se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Le petit joueur de flûteau fit la révérence au château, sans armoirie, sans parchemin. Sans gloire il se mit en chemin vers son clocher, sa chaumine, ses parents et sa promise. Nul ne disent dans le pays, le joueur de flûte a trahi. Et Dieu reconnaisse pour sien le brave petit musicien.
C'est avec Georges Brassens que nous nous séparons. On se retrouve, si vous le souhaitez, dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner.